Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion sur Radio Plus. C'est chaque semaine, le mardi de 12h à 13h. Micro-Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Mardi 13 mars, réunion publique sur les compteurs Linky, c'est à Lens, salle Jean Nouin à 18h30. Après moult tergiversations, la mairie de Lens a fini par réaliser que sa position, répondre le plus tard possible au collectif anti-Linky du bassin minier et faire traîner en longueur, était intenable. Il faut dire que suite aux opérations de tractage sur la ville, ce sont des dizaines de Lensoises et Lensois qui se sont manifestés par courriel et par téléphone. À Lens, comme partout ailleurs, ça coince pour le Linky. Les refus sont massifs et la position de neutralité des élus ne fait pas illusion. Dans l'actualité culturelle, la MAP du bassin minier nous signale un film documentaire pour celles et ceux qui sont soucieux de leur alimentation. Il s'agit de Sugarland, réalisé par un Australien, à propos des méfaits du sucre dans notre alimentation. Il passe actuellement et jusqu'au 20 mars au cinéma Les Étoiles de Bruet-Labussière. La MAP du bassin minier propose par ailleurs un déplacement collectif au départ de Angres pour aller voir ce film documentaire. Pour en savoir plus sur ce départ collectif, l'adresse est contact@amap.bassinminier62.org. contact@amap.bassinminier62.org. Pour connaître les horaires de diffusion de ce film, Sugarland, rendez-vous sur le site du cinéma Les Étoiles. Il passe du mercredi 7 mars au mardi 20 mars. Nous voilà en route pour la troisième édition du festival Les Ustopistes Debout sur le bassin minier du Pas-de-Calais. Troisième édition marquée par un passage d'étape remarquable puisque la ville de Avion, initiatrice du festival, ne sera plus seule à le porter. D'autres collectivités territoriales comme les villes de Méricourt, de Salomine, de Mazingarbe et de Carvin, des associations et structures engagées dans la bataille culturelle au quotidien comme Colère du Présent, connu pour porter le Salon du Livre et de la Critique Sociale le 1er mai à Arras, ou encore Attaque Artois et le Lac de Liévin, rejoignent ce festival pour qu'il devienne un véritable temps fort sur un large territoire. L'objectif est clairement de transformer la colère noire qui gangrène nos quartiers en colère saine et constructive. C'est la culture qui hisse le drapeau pour élever les consciences, qui refuse le silence face aux dérives et dangers liés à un système global qui nous place tous dans une logique de guerre permanente. Le smicard contre le RMiste, le salarié du privé contre le fonctionnaire, l'athée contre le croyant. Pendant ce temps-là, une classe puissante et organisée accumule dans une indifférence presque totale. Durant tout un mois, vous pourrez donc profiter de nombreux rendez-vous. Durant tout un mois, le théâtre, la création seront impertinents, subversifs, volontairement gesticulants. Vous y serez attendus nombreuses et nombreux, convaincus que la culture est une arme capable de bousculer le monde, ses conservatismes, ses haines, ses égoïsmes, ses errances. Dans le cadre du festival Les Utopistes Debout, mardi 13 mars à 10h et à 14h, une pièce de théâtre « Pourquoi les riches ?» par la compagnie Vaguement Compétitif. C'est à Salomine, mardi 13 mars, 10h et 14h, pour un public à partir de 10 ans. La durée est de 1 heure et un tarif spécifique pour les scolaires est prévu à 4 euros la place. Cette pièce de théâtre aborde l'histoire de Republica, une super-héroïne. Sa mission est d'œuvrer pour la justice sociale. Pourtant, rien ne semble vouloir aplanir la pyramide sociale. On dirait au contraire que sa base s'éloigne du sommet et s'enfonce inéluctablement. Republica n'aurait-elle pas abandonné une partie de ses enfants ? Quand l'un d'eux l'interpelle et l'accuse de ne plus faire le job, Republica dénie et se rebiffe. Mais la colère gronde. Republica est bien obligée de tendre l'oreille et de dialoguer. Finira-t-elle par reconnaître ses erreurs ? Retrouvera-t-elle le sens plein des mots « liberté, égalité, fraternité » ? C'est donc « Pourquoi les riches ?» le mardi 13 mars à 10h et à 14h à la MAC de Salomine pour un public à partir de 10 ans. Toujours dans le cadre Les Utopistes Debout et à la MAC de Salomine, le vendredi 16 mars, une pièce de théâtre, La Grande Saga de la France-Afrique, par la compagnie 3 points de suspension. Une séance à 14h pour les scolaires et à 20h30 tout public, à partir de 12 ans. Cette pièce de théâtre nous raconte, à l'aube des indépendances, le maléfique Jacques Foccart, futur empereur des affaires africaines, découvre le livre du mal qui lui dévoile comment permettre à la France de garder la mainmise sur les richesses de l'Afrique. Ce one-man show documentaire, porté par Jérôme Colou, propose avec une parole décapante d'éclairer les chemins obscurs de la France-Afrique et de dresser le portrait acerbe de ses principaux protagonistes. Une joyeuse leçon d'histoire au vitriol de 1958 à nos jours. Une fable satirique à l'humour ravageur qui pointe les échecs de la décolonisation et les mirages de la libre circulation des hommes dans une Europe au racisme tenace et aux frontières angoissées. C'est donc La Grande Saga de la France-Afrique, vendredi 16 mars, 14h et 20h30, à la MAC de Salomine. Toujours dans le cadre du festival Les Utopistes Debout, mais à Avion cette fois, c'est Franck Lepage qui est invité le 16 mars à 19h pour son deuxième spectacle, Inculture 2 et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres, une autre histoire de l'éducation. Franck Lepage démarre ainsi, « Je me suis mis au parapente parce que j'ai raté mon ascension sociale ». C'est le second volet d'une saga consacrée à l'éducation, à la culture avec un grand C, aux inégalités sociales et aux parapentes donc, qui sert à Lepage, seul sur scène, de fil conducteur allégorique. Quels sont les fondamentaux de l'éducation nationale ? À quoi sert-elle ? Y a-t-il eu des alternatives ? Quelles perspectives pour l'éducation nationale ? Après un culture 1 qui décortiquait le mensonge qu'est ce concept gouvernemental de culture, Franck Lepage met en perspective le système d'éducation en France, partant des projets d'éducation émis suite à la révolution de 1792. Il nous montre combien l'éducation nationale comporte en elle les conditions de la reproduction des inégalités sociales et combien il est plus que nécessaire de mettre son nez dans les évolutions à venir. Ce petit conte politique est matière à réflexion, couplé à de bons moments de rigolade. C'est salle Louis Aragon à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion le vendredi 16 mars à 19h. Du 12 au 20 mars, les femmes sont à l'honneur au Ciné Movida à Arras. Des projections et des rencontres organisées en partenariat avec le docteur André Potvin et le CIDFF d'Arras. Il y a donc 6 films qui ont été retenus dans ce cadre-là. Sonita de Roxare Gaem Maghami. Sonita, adolescente afghane réfugiée en Iran, brave les interdits pour se lancer dans une carrière de rappeuse militante. Elle dénonce le mariage forcé qui la menace dans un clip formidable, d'une énergie déchirante. Il s'agit d'un beau portrait primé au festival de Sundance. C'est donc le lundi 12 mars à 20h, suivi d'un débat. Il y aura d'autres projections le jeudi 15 et le samedi 17. Deuxième film, La Belle et la Meute de Kauter Ben Hania. Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit d'errance, durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. C'est donc le mardi 13 mars à 14h30, suivi d'un débat. D'autres séances prévues le mercredi 14 et le lundi 19. Troisième film, « Oh Lucie » de Atsuko Hirayanagi. Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu'à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d'anglais très singuliers. C'est une délicieuse comédie douce-amère. C'est le jeudi 15 mars à 21h, reprojection le samedi 17 et le dimanche 18. Puis, quatrième film, La fiancée du désert de Cecilia Attan et Valeria Pivato. Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l'immensité du désert argentin et ce qui semblait être le bout du chemin va s'avérer le début d'une nouvelle vie. Un beau portrait de femme. C'est le mardi 13 mars à 18h, d'autres projections le vendredi 16 et le dimanche 18. Puis, cinquième film, Cathy Says Goodbye. Cathy, jeune femme du sud-ouest américain, rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d'une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d'elle une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mises à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au monde. C'est un subtil portrait de femme. C'est donc une projection en avant-première le lundi 19 mars à 21h. Dernier film enfin, Emily Dickinson de Terence Davies. La nouvelle Angleterre au XXe siècle. Une jeune femme rebelle, Emily Dickinson, lutte pour son émancipation dans une société rigide et bigote. Ignorée de son vivant, elle est aujourd'hui reconnue comme la plus grande poétesse américaine. Un film subtil et sensible d'une grande élégance. C'est donc dans le cadre des séances de ciné-littérature, mardi 20 mars à 20h, organisé par Plan Séquence. À l'Escapade à Hénin-Beaumont, maintenant, le vendredi 16 mars 20h, dans le cadre du mois de mars consacré aux femmes, c'est du théâtre avec la pièce « Tout reste à faire » par la compagnie In Extremis. Un soir d'hiver, une femme perd son courage comme on perd ses clés. C'est l'histoire de Marie-Claire, ce pourrait être la vôtre. Ou la mienne. Une histoire de fin de courage qui interroge le courage. Une histoire de souffrance au travail qui interroge le travail. une histoire sur l'individu et le collectif, une histoire de dignité. Avec humour et poésie, en peinture et musique, une femme se remet debout et pousse les murs de sa vie. C'est donc que tout reste à faire à l'escapade à Hénin, le vendredi 16 mars à 20h. Le vendredi 16 mars toujours, mais au lac de Liévin, le bassin minier à l'épreuve de la photographie. Il s'agit d'une soirée avec Didier Vivien, photographe documentaire, autour de son livre « La vie sur Terre ». Le photographe a composé en près de 40 ans d'investigation un livre documentaire exceptionnel autour du charbon et de l'histoire du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Il a commencé son incroyable engagement photographique dans les années 80, au moment de la fermeture des derniers puits, poursuivant ensuite son exploration sur les mutations du paysage issues de la fin de cette industrie. C'est au LAG, vendredi 16 mars à 19h. La soirée sera l'occasion d'aborder avec Didier Vivien différents aspects, les métamorphoses du capitalisme, dans le bassin minier, l'exploitation de l'homme continue sous d'autres formes, plus sophistiquées, le bassin minier, territoire parodique des mutations du capitalisme. C'est le capitalisme qui a inventé la photographie pour en faire un formidable moyen d'abrutissement pour la publicité, la presse people. Quelle photographie mettre en œuvre qui ne prive pas la pensée de ses moyens de liberté? Quelle photographie de style documentaire non assujettie? Où en est donc la photographie de type documentaire? Quel est le rôle des images dans la vision du monde? En quoi les photographes, les artistes en général, peuvent aider les gens à mieux vivre? Autant de sujets qu'il sera possible d'aborder à l'occasion de cette rencontre avec Didier Vivien, le vendredi 16 mars à 19h, au lac de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Au LAG, toujours le samedi 17 mars à 20h30, c'est à un concert que nous sommes conviés, un concert suite filibuster. Benjamin, François, Marianne et Stéphane vous invitent à embarquer sur le suite filibuster, larguer les amarres pour une traversée rock'n'roll en anglais et en français. Suite filibuster, c'est quatre corsaires du rock qui abordent de leurs trois mâts des reprises de classiques rock et pop. Clapton, Joe Ramones, Luke, Whitesnake, Téléphone, Hubert Félix Thiéphen. Entraînés par une batterie énergique, deux guitares de génie et une basse qui en impose, ils vous feront revivre les plus belles escales de vos jeunes années. À l'abordage, c'est donc le samedi 17 mars, 20h30, au lac de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Mardi 20 mars, projection du film 8 avenue Lénine, au lac de Liévin. Dans le cadre de la semaine de la fraternité, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais s'associe au lac pour organiser une projection du documentaire 8 avenue Lénine en présence des réalisatrices Anna Pitoun et Valérie Mito. Documentaire de société sur Salkouta Filan et ses deux enfants, Denisa et Gabi. Une famille rome roumaine qui vit en banlieue parisienne depuis 12 ans. Les responsables français et européens affirment aujourd'hui que les Roms ont vocation à rentrer chez eux. Salkouta, dans 8 avenue Lénine, fait la preuve que la France et l'Europe ont la capacité d'accueillir les Roms dignement et que lorsque c'est le cas, il n'y a plus de question Roms. Car en tant qu'européenne, Salkouta a choisi. Et chez elle, c'est ici. Projection donc mardi 20 mars en présence des réalisatrices au lac de Liévin à 18h30, 23 avenue Jean Jaurès. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Tasru. Derrière le pseudonyme Tasru, on retrouve l'Américain Thomas Graswall et ses amis. C'est pourtant en solitaire que le multi-instrumentiste a sorti l'an dernier son album Bottom of a Lake, enregistré à Niigata, sur le net label japonais Tanuki Neri. On y retrouve une jolie collection de titres pop-rock, matinés de touches électro et admirablement produits, et agrémentée de mélodies qui risquent de vous trotter dans la tête. Nous écoutons sans attendre Worst Words, le deuxième morceau de cet album, Bottom of a Lake de Tasru. Smoke from the past fills my lungs, and I exhale a cloud of the worst words I've ever heard. Now that my song's been unsung, you can rip out my throat, feed my tongue to the birds, and I won't do a damn thing about it. I'll surrender the spark from my eyes. In a million ways, this the best day that I've ever seen. Maintenant, l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier et de l'Artois. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Pour cet extrait, nous vous proposons de revenir sur notre cycle radiophonique consacré à l'agriculture paysanne. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce cycle en intégralité sur microrebelle.fr à la rubrique Reportage. Voici donc la première partie de ce cycle. On y accueille Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui s'est engagé toute sa vie dans la défense et la promotion de l'agriculture paysanne et a contribué à la mise en œuvre du réseau régional des organisations qui s'inscrivent dans cette sensibilité. La Confédération paysanne, Avenir 59-62, le CEDAPA, Terre de Liens, le réseau des AMAP, etc. Cet échange exceptionnel est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'agriculture paysanne en région, ainsi que sur les enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Par ailleurs, pour éclairer la réalité de l'agriculture paysanne aujourd'hui, ces trois émissions donnent également la parole à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des petites fermes, à des paysans nouvellement installés, ainsi qu'à des paysans qui viennent juste de partir en retraite. Dans ce premier volet, ce sont Justine et Pierre que nous écouterons. En voici donc quelques extraits.
Nous vous proposons une émission assez exceptionnelle en trois parties consacrée à l'agriculture paysanne. Nous sommes allés à la rencontre de paysans et de paysannes, des jeunes qui souhaitent s'installer ou qui viennent de s'installer, des plus âgés qui sont en retraite, qui ont transmis ou pas leur ferme, des paysans et paysannes issus du milieu agricole ou, au contraire, hors cadre familial, c'est-à-dire dont les parents ne sont pas issus du monde agricole. Nous allons découvrir ce qu'est le travail à la ferme, et puis, nous allons pointer les enjeux qui traversent le monde agricole. En termes de productivisme, d'agrobusiness, de course à l'agrandissement, ou au contraire en termes de petites fermes enracinées sur un territoire proche des habitantes et des habitants. Enfin, nous allons évoquer ce que sont les réseaux de l'agriculture paysanne, et notamment les associations qui promeuvent l'agriculture paysanne, ou les mouvements et les syndicats tels la Confédération paysanne, qui s'inscrivent dans la défense des paysannes et paysans. Les trois émissions que Micro Rebelle vous propose sont construites autour d'un échange avec Jean-Luc Malpeau. Jean-Luc est un paysan en retraite qui a participé aux luttes paysannes qui ont été menées en région ces 50 dernières années et qui ont contribué à la mise en œuvre du réseau associatif et syndical autour de l'agriculture paysanne. Ce long échange avec Jean-Luc, long mais passionnant, vous allez pouvoir en juger, nous l'avons entrecoupé de plusieurs témoignages qui sont autant d'éclairages sur le monde paysan. Sans plus attendre, je vous propose justement un premier témoignage, celui de Justine, qui va notamment aborder quelques aspects concernant son installation et les réseaux et associations qui l'ont aidée.
Bonjour, moi c'est Justine Berthou, j'ai 27 ans. Et je suis installée en maraîchage biologique sur la commune d'Ermelingan dans le Boulonnais depuis le 21 mars 2017. Alors je suis hors cadre familial à la base, mes parents sont cadres dans l'informatique. Et moi j'ai fait des études pour être ingénieur forestier où je me suis spécialisée dans l'agroforesterie par après. Et j'ai voulu me rediriger vers l'agriculture, notamment le maraîchage. Avec l'idée de faire un peu d'agroforesterie dessus aussi.
Alors donc c'est une toute jeune installation. Comment ça se passe? Comment tu commercialises? Quels sont les débouchés?
Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un paysan qui m'a ouvert les portes de sa ferme. Donc c'est un éleveur laitier qui m'a cédé 1,80 hectare pour que je puisse m'installer. Et en fait, l'idée, c'était de compléter, lui, sa vente directe de viande. Et du coup, moi, je produis les légumes. Donc, une partie des légumes sont revendus à la ferme pour alimenter le point de vente. Et sinon, je fais aussi des marchés et je livre des entreprises avec les légumes.
Alors, une formation en agroforesterie, tu es hors cadre familial, autrement dit, pas du tout issu du milieu agricole et paysan. C'est difficile. Comment on apprend ?
Oui, c'est très difficile parce qu'en plus j'ai fait mes études à l'étranger, donc je suis partie 5 ans en Amérique du Nord et donc quand je suis rentrée en France, j'avais vraiment qu'un très lointain souvenir du milieu agricole français. J'avais un grand-oncle qui était éleveur laitier mais pour qui ça s'était mal terminé, donc voilà, j'avais beaucoup d'a priori là-dessus. Et donc il a fallu que je me forme pour le maraîchage, donc j'avais commencé à travailler chez une maraîchère le soir. pour voir si j'aimais vraiment ça. Et après, j'ai été accompagnée par Avenir pour monter mon projet. Et puis, on m'a proposé de faire la formation Aptea, une formation où je pouvais aller travailler chez trois maraîchers en alternance pendant un an et aussi faire des formations théoriques sur la comptabilité, la gestion, faire des tours de plaine et rencontrer d'autres agriculteurs pour être plus dans le monde agricole, que je connaissais mal.
Alors, si tu es d'accord, on va détailler un petit peu cette formation Aptea. Donc, c'est une formation qui est mise en place par l'association Avenir. Alors, concrètement, pour toi, ça s'est passé comment? Tu parles de trois autres fermes. Alors, comment ça se passait? C'était à la semaine Est-ce que tu peux nous décrire précisément, enfin concrètement?
Oui, alors en fait, tous les mois, j'avais un planning que j'élaborais avec l'association Avenir. Et donc, j'avais en tout 44 jours à faire chez chaque maraîcher. Et donc, en gros, j'avais à peu près 3 à 4 jours par semaine où j'allais travailler chez eux. Donc, en général, je m'arrangeais pour être toutes les semaines sur chaque ferme. Donc, je tournais et j'avais aussi un ou deux jours, soit pour aller en formation complémentaire sur d'autres sujets, soit pour travailler mon dossier et aller à mes différents rendez-vous avec les banques, les assurances, etc., pour pouvoir être prête à m'installer à la fin de ma formation.
Alors, les trois fermes dans lesquelles tu allais chaque semaine, hein, 44 jours par ferme, c'est des fermes qui faisaient la même chose ou tu as appris des choses différentes? C'était complémentaire?
Alors j'avais principalement recherché autour de chez moi au départ, donc dans le Boulonnais, et j'ai eu la chance de tomber sur trois fermes bien différentes avec des surfaces différentes, donc qui allaient de 8000 m² à 10 hectares. Et avec des mécanisations différentes, du motoculteur au tracteur, et avec des modes de commercialisation différents aussi, que ce soit des paniers, AMAP, ruche qui dit oui, les cantines de lycée, les biocoop, la vente à la ferme. Et du coup, ça m'a permis de me faire une idée sur ce que j'aimais vraiment faire. Et ça a changé pas mal de choses par rapport à l'idée que j'avais de mon installation après et ce que je fais finalement maintenant. Ça a permis de savoir ce que je voulais vraiment faire, de ce que j'aimais.
Finalement, cette formation Aptea, c'est une bonne formule pour se rendre compte de la réalité du métier, finalement.
Ah bah oui, complètement. Ça m'a permis à la fois de m'intégrer, de me rendre compte des démarches qu'il y avait à faire. Ça m'a permis de voir les erreurs à éviter. Je pense que j'ai gagné beaucoup de temps en voyant les erreurs que eux avaient faites et que du coup moi je n'ai pas faites, et ils m'ont donné voilà tout leur secret, et du coup je me suis installée beaucoup plus sereinement que si je n'étais pas passée par là, et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait cette formation.
Ouais, c'est une belle expérience. Réciproquement, toi, ça t'a apporté beaucoup de choses, mais pour le fermier, pour le paysan qui t'accueille, c'est aussi un coup de main que tu leur proposes finalement. Autrement dit, c'est lui aussi, il est d'une certaine manière gagnant sur cette opération.
Ah bah oui, qu'en plus j'étais là toutes les semaines, donc au départ c'est sûr il y a un temps de formation, je connaissais pas tout, mais après ce qui était bien aussi c'est que j'ai gagné peu à peu en autonomie et j'ai pu avoir des responsabilités, me charger de certains travaux au champ, d'accompagner des nouveaux stagiaires ou d'autres choses comme ça aussi. Et puis pour eux je pense que c'était agréable aussi parce que ça les a mis en lien avec les autres paysans qu'ils ne voyaient pas forcément, et donc à chaque fois que je revenais, bah, je donner des nouvelles des autres, eux demander des nouvelles, puis ben, est-ce qu'il a planté ses poireaux, comment il a fait. Donc ça permettait de comparer, et après on avait des sessions de regroupement où on se voyait entre nous tous ensemble, et ça permet aussi de créer du lien social et de sortir un peu de sa ferme. Voilà.
Alors donc, tu viens de t'installer hein, dans une ferme existante, hein, mais tu as ta propre production. Quel regard tu as, hein, bon, tu as 27 ans, tu démarres tout juste, quel regard tu as sur le monde paysan, sur ses difficultés, ses réussites, ses espoirs? Comment est-ce que tu analyses un petit peu tout ça, de ton point de vue, de ta fenêtre en quelque chose?
Eh ben, j'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension à rentrer dans le monde agricole, parce que moi, je ne connaissais que la fenêtre de l'élevage industriel, de l'agriculture intensive. Et en fait, en rentrant dans le réseau, en passant par les différentes associations, parce qu'on est aussi passé par le CEDAPA pour préparer mon arrivée sur la ferme qui était déjà existante, et bien en fait, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, c'était très solidaire, des fermes à taille humaine, raisonnées, où on essaye de changer les choses. Et ben, moi, ça m'a vraiment confortée dans l'idée de faire partie de ces personnes-là qui cherchent toujours à améliorer, à être plus solidaires, à être plus respectueux de l'environnement, des bêtes, et plus proches des consommateurs. Et moi, je trouve que c'est très positif, quoi.
Finalement, c'est commencer à dessiner une autre société.
Ah bah oui, complètement, complètement. Mais je pense qu'il faut encourager. Je pense que les consommateurs de plus en plus regardent en plus. Et du coup, je pense que le meilleur moyen, c'est d'ouvrir les fermes et de se faire connaître et continuer le travail que les associations font. Et tout doucement, ça, tout finira par changer pour le meilleur.
Bien, je te remercie. Alors peut-être une toute dernière question, peut-être un peu plus personnelle, tu verras si tu réponds ou pas. Hein. Donc là, tu viens juste de t'installer, mais tu n'es pas vraiment chez toi, en quelque sorte.
Mm-mm.
Est-ce que, peut-être pas pour maintenant, mais est-ce que tu as d'autres projets à terme, une installation complètement personnelle, ou est-ce que tu attends de voir quels sont tes projets ?
Ben, pour l'instant, c'est vrai que je suis pas vraiment chez moi, mais en tout cas avec le cédant, on a tout fait pour que je me sente chez moi. Donc j'ai un bail très sécurisant, j'ai mon propre accès à la ferme, donc eux rentrent par leur côté de la ferme, moi j'ai mon côté aussi. On prend des décisions ensemble. Pour l'instant, je n'habite pas proche du terrain, c'est l'handicap. Moi, j'habite sur Boulogne et la ferme est à Ermelingan, donc j'ai 20-25 minutes de route tous les jours. Et voilà, à terme, d'ici 2-3 ans, l'idée, ce serait de se rapprocher avec mon conjoint pour voir de trouver une maison pas loin de la ferme pour que ce soit plus facile. Mais bon, sinon, je me sens... On a tout fait, en tout cas, pour que je me sente chez moi et j'ai mon propre bâtiment et mon indépendance. Donc c'est très bien.
Ben, merci, Justine, et puis bonne continuation.
Ben, de rien, merci beaucoup.
Après ce premier témoignage, un premier échange avec Jean-Luc.
Je m'appelle Jean-Luc Malpeau, j'ai 70 ans et j'ai toujours travaillé dans l'agriculture, donc de 17 à 60 ans, voilà de l'âge auquel j'ai pris ma retraite. Donc j'ai repris la ferme de mon père, en fait, avec qui j'avais travaillé avant, dans le Cambrésis. Donc une ferme classique du Cambrésis pour l'époque, donc 55 hectares avec des betteraves, des céréales, un peu d'élevage bovin, un peu d'élevage porcin.
Donc là, on est en quelle année à peu près ?
En 1973.
D'accord.
Que j'ai repris la ferme.
Oui, ok. Ouais.
Et j'avais commencé à revenir à travailler à la ferme en 1964. C'est important de dire 64 parce que c'est vraiment la période où on a changé de politique agricole, où on a mis tous les moyens pour changer de politique agricole. Hein. Après les lois de Pisani, 1962, la loi d'orientation de 1962.
Alors, tu peux en dire quelques mots, autrement dit, le changement, la rupture, qu'est-ce que c'était ?
Ben, en fait, le changement d'orientation s'est fait après la guerre, où il fallait augmenter la productivité de l'agriculture pour nourrir la population française et ensuite européenne, puisqu'on était, après la guerre, on était quand même sous le régime du plan Marshall, hein, et on demandait aux États-Unis de pallier au manque de nourriture en France. Et en Europe, et en Allemagne, je pense. Et donc, cette orientation-là a été prise après la guerre, mais en fait, elle n'a vraiment été effective qu'avec l'arrivée de Gaulle et de Pisani, comme ministre de l'Agriculture en 1961, je pense, qui lui a vraiment pris les moyens pour mettre en place les mesures qui allaient permettre à l'agriculture d'augmenter sa productivité. Donc productivité à l'hectare pour produire plus et productivité du travail pour produire avec moins de gens. L'objectif étant d'arriver à l'autosuffisance alimentaire en produisant plus et l'objectif étant de libérer 1 million de personnes de l'agriculture pour aller travailler vers l'industrie. Ce qui permet en même temps de ne pas trop augmenter le coût du travail.
Donc c'est à ce moment-là que tu... Et c'est à ce moment-là, dans la profession, en quelque sorte.
À ce moment-là, en 64, donc au moment où ces politiques-là commençaient à se mettre en place sur les territoires, hein, à la base, que j'ai commencé à travailler, oui, avec toutes les questions qui se posaient sur quelle place on aura dans cette nouvelle agriculture. Voilà, donc ça c'est pour mon installation, mes débuts. Et puis je suis resté sur cette ferme-là, qui est restée toujours à peu près la même taille, enfin, quand j'ai cédé en 1960, en 2007, il y avait 57 hectares. Donc j'ai pas agrandi la ferme. C'était un principe de départ de ne pas agrandir la ferme parce que ne pas agrandir la ferme, ça voulait dire laisser plus de place aux paysans. Quoi. Quand on agrandit une ferme, forcément, il faut qu'il y en ait qui s'en aillent.
Donc tu dis que c'était dès le départ, c'est... Alors que finalement, au départ, c'était pas forcément dans l'air du temps, le fait de ne pas agrandir.
C'était pas du tout dans l'air du temps. Bon, c'était même l'encouragement était même d'agrandir les fermes. Cette politique-là de Pisani, enfin, on dit la politique de Pisani, mais elle était pensée avant par des gens comme René Dumont, par exemple. C'était mais une mesure qui était très efficace. C'était l'indemnité viagère de départ. L'indemnité viagère de départ, donc, qui était votée en 1962 dans la loi d'orientation, donnait une prime, donc une indemnité viagère, donc un complément de retraite aux agriculteurs qui partaient. Pour libérer des terres, pour installer des jeunes et en même temps pour restructurer des fermes, donc pour agrandir des fermes. Il fallait encourager les vieux agriculteurs à partir. Donc quand j'ai repris la ferme, mon père m'a cédé la ferme et il a eu l'IVD, ce qu'on appelait l'IVD minimum. S'il avait cédé au voisin pour agrandir, il avait le double. Donc il y avait vraiment un encouragement pour que les gens cèdent à quelqu'un d'autre. Et moi personnellement, j'ai fait une formation juste avant de reprendre la ferme, là d'un an. Si je m'engageais à ne pas reprendre la ferme, j'avais ma formation gratuite. Comme je ne me suis pas engagé à ne pas reprendre la ferme, puisque je voulais la reprendre, la formation était payante. Donc c'était clair, quoi. Et c'était efficace en plus. Hein.
Oui, autrement dit, en quelque sorte, toi, tu as été un cas particulier. Toi et ton père, vous avez été un cas particulier.
Ouais, oui, enfin, il n'y a pas que moi qui ai repris la ferme des parents à ce moment-là, mais oui, c'était. En tout cas, c'était pas suivre l'orientation
officielle
qu'il fallait suivre. Bon, ceci dit, la ferme n'était pas non plus très petite, donc elle était viable à ce moment-là. À ce moment-là, 55 hectares dans le Cambrésis, c'était la moyenne.
D'accord. Alors, tu peux évoquer l'activité de la ferme. Donc, c'est de l'élevage. Ça consiste en quoi?
Donc, l'activité principale, c'était la culture. Hein. Enfin, en tout cas, quand je travaillais avec mon père, on avait de l'élevage laitier. Donc, on avait des vaches laitières, une vingtaine. Et un petit élevage porcin. Et puis, le reste, c'était des betteraves sucrières, des céréales. Céréales, blé, orge, enfin bon. Et puis les cultures fourragères pour les vaches. Quand j'ai repris du fait que j'allais travailler seul et que je n'étais pas équipé sur la ferme pour pouvoir faire face au travail de l'élevage laitier, c'était encore des étables entravées, donc des vaches attachées, etc. Donc j'ai supprimé l'élevage laitier et je l'ai remplacé par un élevage de vaches allaitantes, donc un petit élevage, hein, 10 vaches. C'est vraiment tout petit. Mais pour permettre d'utiliser les prairies. Et puis aussi parce que j'aimais bien avoir de l'élevage. Et puis un élevage porcin d'une vingtaine de truies que j'ai gardé pendant une douzaine d'années. Ensuite, j'ai supprimé l'élevage porcin parce que déjà, il fallait réinvestir. Et ensuite, c'était plus nécessaire. Une partie des emprunts était remboursée, donc c'était plus vraiment nécessaire. Donc voilà. Le revenu principal à ce moment-là, c'était quand même les betteraves sucrières. 15 hectares de betteraves sucrières, c'était pratiquement, c'est variable suivant les années, mais 40% du revenu de la ferme.
Alors peut-être pour poursuivre dans cet échange sur les aspects très, très pratiques et très concrets, j'imagine qu'en plus de 40 ans d'activité, les choses ont dû changer, évoluer, enfin, c'est un peu ce que tu viens de dire, hein, tu as abandonné des productions, tu en as développé d'autres, mais finalement... Dans le concret, comment ça se passe là? Je ne vais pas dire ta journée à la ferme, mais peut-être ta semaine ou ton mois. Ça se déroule comment? Et puis, comment ça s'articule avec la vie familiale? Enfin, peut-être des questions qui aujourd'hui viennent un petit peu naturellement quand on ne connaît pas le monde paysan finalement.
D'accord. Donc, quand on a un élevage important, ce qui n'était pas mon cas, la journée est quand même réglée essentiellement avec avec l'élevage. Si on a des vaches laitières, le matin, il faut traire les vaches, les soigner, les nourrir, et le soir, on recommence. Donc ça, c'est vraiment le rythme de la journée. Ce n'était pas tout à fait mon cas, même si j'avais quand même des animaux, j'avais des veaux, quelques vaches, j'avais une dizaine de vaches et des porcs. Donc le matin, on s'occupe des animaux, c'est la première chose. Et puis après, le travail dépend essentiellement de la saison en culture. Donc il y a des périodes de travail très intenses qui sont la période des semis, parce qu'il faut essayer de les faire dans les bonnes dates, c'est toujours mieux. Donc les semis d'automne pour le blé, les semis de printemps pour l'orge et les betteraves. Donc ça, c'est des périodes où moi je travaillais, au début en tout cas, 70, au moins 70 heures par semaine, enfin. Donc des journées complètes, pratiquement sans arrêt, quoi. Mais ça dure 15 jours à chaque fois, quoi. La période de moisson, pareil, c'est une quinzaine de jours. Après, il y a des périodes où c'est un peu plus régulier comme travail. C'est l'entretien des cultures au printemps, des herbages, tout ça. Mais c'est pas, il n'y a pas la même urgence que la récolte ou les semis. Et l'automne, c'est pareil, les déchômages, les semis d'engrais verts, enfin. Donc il y a des périodes plus calmes où je pouvais plutôt m'organiser pour soit ne pas travailler une journée si je devais partir, soit en famille, soit pour des engagements, soit pour autre chose. Et puis des périodes où, au contraire, il faut... Il n'y a plus rien d'autre qui compte, quoi. C'est la priorité absolue. Parce que c'est l'essentiel du... Une journée de moisson perdue, ça peut quelquefois coûter cher, quoi.
Et au niveau de la vie de famille, ta conjointe ou ton épouse est impliquée dans la ferme ?
Alors, elle a été impliquée en beaucoup moins que moi, oui. Mais elle a arrêté son travail pendant une dizaine d'années.
Au début.
Mmh. Donc là, elle participait aux travaux de la ferme, on va dire à mi-temps, en gros, quoi. Et ensuite, elle a repris un travail, son travail dans l'enseignement, dans la formation, à partir de 1982-3, une dizaine d'années après avoir la reprise à la ferme. Ouais.
Et au début, ton père t'a laissé ou t'a accompagné?
À partir du moment où j'ai repris la ferme, c'est moi qui prenais les décisions. Hein. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Donc, il pouvait me donner son avis, mais sans plus, quoi. Il ne s'est pas immiscé dans les grands choix. Mais il venait me donner un coup de main quand il fallait, ouais. Mais ça, c'était plus facile quand j'ai repris la ferme qu'avant. Je pense que peut-être qu'il avait plus confiance quand il a vu comment je faisais, je ne sais pas. Enfin,
bon. Tu avais fait tes preuves. Ok, là, tout à l'heure, tu évoquais, à propos de l'élevage porcin, tu évoquais les emprunts. Tu disais, les emprunts sont derrière moi, donc j'ai un peu évolué. Alors, sur cette question des emprunts, bon, j'imagine que c'est pour l'équipement, c'est pour s'équiper. Ouais. Alors, c'est quoi les grands rythmes dans la vie d'une ferme, là, avec le recul de 40 ans dans la vie de ta ferme? Les emprunts, c'était pour investir dans quoi? Qu'est-ce que ça a permis?
D'accord. Donc quand je disais que les emprunts étaient pratiquement remboursés, c'était des emprunts d'installation. Hein.
D'accord.
Donc au moment de l'installation, il faut forcément, la ferme représente un capital et qu'il faut payer aux cédants, donc aux parents, puisque à moins d'être fils unique et que les parents ont déjà un bon revenu, ce qui est quand même assez rare. Donc il y avait un emprunt. L'avantage que j'ai eu en reprenant, comme la plupart de ceux qui reprennent en famille, c'est qu'on n'est pas soumis à la concurrence, à la surenchère des voisins qui veulent s'agrandir. Donc j'ai repris un taux qui me permettait de vivre du revenu de la ferme et de rembourser. Sans gros problème. Je dois reconnaître que j'ai pas eu trop de problèmes pour rembourser, d'autant plus, alors ça c'est une conjoncture qui n'a pas duré toujours, c'est qu'on était dans une période où l'inflation était à plus de 10%, donc ça aide à rembourser les emprunts aussi, ce qui n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Mais bon, ensuite j'ai fait le choix quand même, à partir des années 80, donc une quinzaine d'années après la reprise de la ferme, de ne pas agrandir, donc de ne pas avoir beaucoup d'emprunts à refaire. J'ai pu en faire un emprunt pour acheter un tracteur, pour changer de moissonneuse-batteuse, mais enfin, c'est pas très important dans l'ensemble. Le conseiller de gestion, que je ne voyais pas beaucoup, mais enfin, on était adhérent à un centre de gestion, mais j'ai pas besoin de lui pour faire les choix dans la ferme, mais il m'a demandé un rendez-vous quand vraiment les emprunts d'installation étaient remboursés, en me disant, mais maintenant, il faut que vous repreniez 20 hectares. Donc, il faut emprunter pour... reprendre 20 hectares, puisqu'en bonne gestion, il faut toujours qu'il y ait une partie d'emprunt, l'équilibre entre emprunt et capital propre. Et il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Donc comme j'avais pratiquement beaucoup plus en capital propre, il fallait que j'emprunte, et donc que j'agrandisse. Alors je lui ai dit, pourquoi faire? Il m'a dit, puisque vous pouvez le faire. J'ai dit, d'accord, mais pourquoi faire? Mais puisque vous pouvez le faire. Il n'y avait pas d'autre réponse. Donc je lui ai expliqué que si j'empruntais... Que si je reprenais, en supposant que je trouve les terres, que je les empruntais à un taux de concurrence, c'est-à-dire beaucoup plus élevé que ce que j'avais repris, il fallait 20 ans pour les rentabiliser en céréales, puisque je ne pouvais pas faire plus de betteraves. et qu'au bout de 20 ans, bah, j'étais pratiquement à la retraite et que ça me... j'aurais plus de travail et pas plus d'argent disponible, d'une part, puis en plus, c'était contraire à mes choix de départ. Bon, là, ils ne pouvaient plus rien dire. Sauf que, quand même, à la fin, j'aurais bénéficié d'un capital beaucoup plus important, j'aurais un patrimoine plus important.
Au moment de la transmission.
Au moment de la cession, oui. Forcément, je cédais 20 hectares de plus, et en plus, dans un autre esprit que ce que j'ai fait. Donc, plus cher. Ouais. Mais voilà, c'était ça. Là.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.